Bonjour à tous. Qui était là pour regarder l'excellent film que nous avons vu hier soir, Galilée ? C'était magnifique, n'est-ce pas ? Sitôt que la vidéo sort, j'achète. Même je distribue. C'est un film vraiment formidable. Ça fait beaucoup réfléchir. Et l'après-midi du même jour, j'étais à Mortagne pour le toiletteur de Potter, notre chien, qui est plus beau que Pablo. Et j'avais pris un livre avec moi, je suis allé boire un chocolat chaud qui n'était pas chaud d'ailleurs, puis je l'ai bu vite parce que alors, après il serait devenu franchement froid. Et puis j'ai lu plusieurs histoires, c'est un livre, je vous dirai le titre du livre, l'auteur, afin que vous puissiez aller l'acheter. Et vous qui écoutez sur internet, je fais de la pub, voilà, j'ai aucun intérêt parce que je ne gagne rien avec ça, mais je trouve que c'est tellement beau, je crois que ça vaut la peine. Donc avant de vous prêcher la parole de Dieu, je voudrais vous lire une histoire. On est comme des petits enfants ce matin, je vous demanderai de vous tenir bien éveillé, d'écouter l'histoire que je vais vous lire. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, nous sommes bien d'accord. Alors continuons. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Et 8 plus 9 égale... Il se massa les tempes. Eh bien, demanda la voix. Ah, là tu commences à avoir des doutes, n'est-ce pas ? 8 plus 9 ? Vincent grimaça. Combien pouvait faire 8 plus 9 ? Il avait certes quelques intuitions sur le problème. Par les cornes du grand nombre, on le lui avait dit, il devait s'en souvenir. 8 plus 9 égale... Soudain, une clarté traversa son esprit. 17. Il n'y avait plus d'autres questions. Bon, c'est vrai. 8 plus 9 égale 17. Sous le grand dôme de l'église du chiffre, le 17 résonna plusieurs fois. 17, 17. Un chiffre étrange. Il se décompose mal. Ce n'est pas vraiment sympathique. Et pourtant, il est l'addition de 8 plus 9. Vincent avait trouvé. Il faisait donc partie de l'élite mondiale. L'homme à la voix grave, assis en face de lui sur un trône multidimensionnel, se nommait Egalem Sedeve. Il dirigeait le grand monastère gouvernemental du chiffre. Ce n'était pas n'importe qui. Il portait le titre le plus élevé de la hiérarchie des moines soldats, puisqu'il était évêque-baron. Il se pencha en avant et leva le doigt. « Un jour, je t'apprendrai quelque chose de terrible », déclara-t-il avec l'expression d'un grand-père, promettant une friandise. « Qu'ai-je encore à découvrir ?» demanda Vincent. « Je t'apprendrai combien font 9 plus 9. Cela, tu l'ignores, n'est-ce pas ?» Le jeune Vincent fut interloqué. « Mais personne ne sait combien peut faire 9 plus 9. »« Certes, peu le savent, mais moi je le sais. Et nous sommes une centaine sur cette planète à le savoir. 9 plus 9 donne un nombre. Un nombre extraordinaire, un nombre très intéressant. Assez surprenant, ma foi. » Vincent se jeta à ses genoux, il était ému. « Ô maître, enseignez-moi vite ce grand mystère. » Et Galem, ses deux, le repoussa du pied. « Tu le sauras un jour, mais pas tout de suite. Quel est ton grade déjà ? Je suis prêtre chevalier. Quel âge as-tu ? J'ai la moitié du temps de vie. Et tu sais déjà compter jusqu'à 17, c'est bien. » Le prêtre chevalier baissa les yeux. Il reconnut qu'il n'avait appris que, depuis peu, l'existence du nombre 17. L'archevêque baron se pencha en avant, un sourire malicieux aux lèvres. « Sais-tu ? Jusqu'à quel nombre cet homme a pensé ? » Vincent tenta de répondre de son mieux. « Je ne suis pas capable d'imaginer votre sagesse et votre science. Je suppose seulement qu'il doit exister des nombres au-delà de 17 et que vous les connaissez. » « Exact. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Et un jour, toi aussi, tu les connaîtras. Reviens demain, je te confierai une grande mission. Si tu la réussis, je te donnerai le résultat de 9 plus 9. Quel honneur ! Un pas en avant. Étreint par une émotion irrépréhensible, le prêtre chevalier retint une larme. Son maître lui indiqua qu'il pouvait maintenant se lever et partir. Vincent galopait sur son cheval et il se demandait combien pouvait faire 9 plus 9, sûrement un nombre gigantesque avec peut-être des implications surprenantes. Ses étriers effleuraient les flancs de son destrier. Son oriflamme claquait au vent avec le symbole du chiffre 1. 1. Il se sentait heureux d'être moine et d'être savant. Il avait découvert 17 presque par hasard. Une rixe s'était déclenchée dans une taverne. Il avait dégainé son épée et combattu une bande de pillards qui s'attaquaient à un vieillard. L'homme était blessé. Vincent n'avait pu lui sauver la vie. Le vieillard perdait son sang à gros bouillon, mais il eut la présence d'esprit de le remercier. Et en signe de gratitude, il lui révéla que 8 plus 8 égale 16. Le vieillard ignorait que Vincent était un prêtre chevalier. Il s'attendait à ce que celui-ci lui baise les orteils. Le secret du 16 était rare. Or, Vincent expliqua qu'il possédait déjà une grande culture et qu'il savait depuis longtemps que 8 plus 8 égale 16. À ce moment, le vieil homme blessé qui agonisait lui prit le bras et lui chuchota à l'oreille. « Peut-être, mais sais-tu combien font 8 plus 9 ?» 8 plus 9, c'était au-delà de son initiation. Alors, juste avant son dernier soupir, le mourant avait articulé « 17 ». Et voilà qu'une semaine d'intervalle, comble de chance, le grand archevêque Baron Egalem Sedeuve le convoquait et lui proposait de lui apprendre combien faisait 9 plus 9. Le niveau au-dessus. Plus haut, toujours plus haut dans la conscience élargie. En quelques jours, il avait compris ce que certains n'effleuraient même pas durant toute une vie. Il sourit. Vincent aimait résoudre les mystères. Il galopa de plus belle et rejoignit sa femme, Septine, une intellectuelle de la dernière génération, qui savait compter jusqu'à 12. Ses enfants qui comptaient à peine jusqu'à 5, et ses propres parents qui n'étaient jamais parvenus à franchir la barre des 10. En tant que prêtre chevalier, Vincent était riche. Tout le monde, dans la ville, se devait de respecter ceux qui savaient compter au-delà de 15. Il conversa avec sa femme et s'amusa avec ses enfants, qu'il éduquait de son mieux, mais il n'avait rien à dire à ses parents dont la pensée limitée sous 10 empêchait tout dialogue. S'il apprenait qu'il existait 11, 12, 13, 14, ils en seraient complètement bouleversés. Vincent vivait dans une société où tout était fondé sur les chiffres. Plutôt que d'étudier les matières par thème ou par chronologie, on les apprenait par le biais des chiffres, et ce, dès la maternelle. Connaître à fond un chiffre constituait l'objectif d'une ou plusieurs années scolaires. Et dans cette notion de chiffre, les professeurs incluaient la géographie, l'histoire, les sciences, bref, tout, y compris la spiritualité. Maîtriser un chiffre n'était pas une mince affaire. Dès son plus jeune âge, les maîtres avaient commencé à initier Vincent à la puissance du chiffre 1. Il connaissait tout du chiffre 1. 1 incarne l'univers où l'on vit. Tout est dans l'univers, tout est en unité. Un représente le départ de tout, le Big Bang. C'est aussi le continent avant sa division. Un, c'est la fin de tout, la mort. Le simple revient au simple. Un symbolise la prise de conscience de la solitude. On est toujours seul, on est toujours un dans la vie. Un personnifie la prise de conscience du moi. Chacun est unique. Un, c'est aussi le monothéisme. Il y a au-dessus une force supérieure qui regroupe tout. Un étant le chiffre le plus important, Vincent en avait étudié les multiples facettes pendant plusieurs années. Puis on lui avait enseigné la notion du 2. 2 découle logiquement de 1. 2, c'est la division, la complémentarité. 2 représente le sexe opposé, le féminin qui complète le masculin. 2 incarne l'amour, symbolise la distance entre soi et le reste du monde. 2 exprime le désir de posséder, ce qui est différent. 2, ce n'est plus se soucier uniquement du 1. 2 personnifie l'antagonisme avec les autres. 2, c'est donc aussi la guerre. Le bien, le mal, le noir, le blanc, la thèse et l'antithèse, le yin, le yang, l'endroit et l'envers. 2 prouve que toute chose est divisible. Ce qui est bon recèle un effet pervers mauvais. Et ce qui est mauvais a un effet pervers bon. 2 incarne le choc effervescent des contraires qui aboutit à Quelques années plus tard, Vincent avait appris le sens du chiffre 3. 3 représente la division de tout, antèse, antithèse, synthèse. 3 est l'enfant produit par l'union de 1 et du 2. 3 forme le triangle. 3, c'est l'observateur de la bataille du 1 contre le 2. 3, c'est la troisième dimension, le relief. Le monde prenait du volume grâce à ce chiffre. 3 déclenche et dynamise les rapports entre 1 et 2. Ce qui est en 3 évolue vers le haut, mais doit être canalisé. Et il passa au 4, le 4 qui temporise le jeu. 4 équilibre des forces, compense l'effet du 3. 4, c'est la fortification, l'appartement carré, le château carré. 4 symbolise le couple d'enfants ou le couple d'amis qui se joint au couple tout court. Toute vie sociale ne peut démarrer qu'à 4. 4 va enclencher le village et donc la vie sociale. 4, ce sont les 4 points cardinaux. 4 personnifie la recette du 4 quarts, le gâteau le plus simple. 4, ce sont nos 4 membres qui nous permettent d'agir sur la nature, c'est la sécurité. Et il évolue donc vers 5, le chiffre sacré. 5 représente le toit pointu qui recouvre la maison carrée. 5 désigne les doigts de la main unis pour se transformer en point. Les 5 orteils assurent la verticalité du corps. Ainsi avait été éduqué le très bon élève, le moine soldat Vincent. Il avait appris peu à peu, année après année, l'évolution du monde en suivant l'évolution des chiffres. Il connaissait la magie du 6 qui équilibre les constructions, la perversité du 7, chiffre qui règne sur toutes les légendes. Il avait découvert la puissance du 8, chiffre des géométries parfaites. Il aimait le 9, chiffre de gestation. Normalement, la plupart des enfants scolarisés apprennent à compter jusqu'à 9. Mais lui, enfant surdoué, avait été aussi initié au 10. Et donc, il avait franchi le monde des chiffres pour passer à celui des nombres. Vincent avait découvert ainsi le 11, qui se lit dans tous les sens, puis le 12, le chiffre des juges. Il adorait tout particulièrement le chiffre divisible par 1, par 2, par 3, par 4 et par 6. Il avait été initié au 13, le chiffre du mal, et puis au 15, au 14, au 15, sans parler du 16 et du 17. Le 17, le chiffre qu'on apprend en tentant de sauver un vieillard dans des tavernes. Savoir compter aussi loin l'avait évidemment propulsé au sommet de l'administration ecclésiastique qui dirigeait, régissait le pays. Il était désormais prêtre chevalier. Dès 16 ans, il avait rejoint un monastère. On lui avait enseigné le métier d'espion polyvalent. La seconde fois qu'il s'inclina devant l'archevêque, baron et Galem Sedeuve, ce dernier lui sembla fatigué. Pourtant, le vieil homme avait toujours son regard perçant. Il ne cacha pas son contentement de revoir sa jeune recrue. Il jouait avec une longue pipe qui s'amusait à allumer et à éteindre. « La mission que je vais te confier est délicate. Beaucoup y ont laissé leur vie. Mais tu sais compter jusqu'à 17. Tu es donc suffisamment débrouillard pour réussir. Je suis à vos ordres. » Le vieux moine guida Vincent vers un lieu surélevé qui offrait un panorama unique dans les jardins de Cyclamène et de Bougainvilliers. Il est arrivé un incident. 4 prêtres chevaliers sont devenus hérétiques. Ils sont actuellement en fuite, mais ils ont été repérés dans la ville de Parmille. Des prêtres chevaliers? Mais de quel niveau? Tu voudrais savoir s'ils comptent plus haut que toi, n'est-ce pas? Eh bien oui, ils possèdent davantage de connaissances que toi et ils savent parfaitement combien font 9 plus 9. Vincent était plutôt surpris que des gens connaissant la résultante de 9 plus 9 se laissent aller à choisir l'hérésie. Il en fit la remarque. Le sage le prit par les épaules. « Vincent, savoir trop de choses peut rendre fou. C'est pour cette raison que la connaissance numérique n'est pas répandue équitablement entre les hommes. C'est pourquoi on n'apprend pas aux enfants les chiffres qui dépassent le cap de la dizaine. » Chaque chiffre, chaque nombre possède une puissance, mais une puissance difficile à contrôler. Ce sont comme des boules d'énergie capables de lâcher la foudre. Il importe de canaliser cette énergie, sinon elle se retourne contre toi et on risque d'être mortellement brûlé. Je sais cela, maître. Et plus le chiffre est élevé, plus il peut devenir dangereux pour celui qui le manipule mal. Le discours donna à réfléchir à Vincent. En effet, tout le monde n'était pas capable de saisir l'intérêt de compter au-dessus de 10. Ses propres parents auraient été bien en peine d'imaginer 11, 12. Heureusement, cette responsabilité leur était épargnée. En revanche, lui, Vincent, était désormais lancé dans une quête du savoir numérique. Bientôt, il saurait combien font 9 plus 9. Toujours plus haut, toujours plus loin. Il se rendait bien compte que connaître les chiffres depuis les nombres élevés le grisait chaque jour davantage, mais il ne réalisait pas encore les dangers de ce savoir. Un souvenir lui revint pourtant à l'esprit. Il avait vu des gens s'entretuer parce qu'ils manipulaient n'importe comment des chiffres inférieurs à 15. Ces moines hérétiques ont aussi tué. Il faut retrouver ces assassins, dit l'archevêque Baron. Et Galem Sedeuve présenta les portraits des prêtres chevaliers meurtriers. Ils n'avaient pas l'air d'assassins. Mais à quoi ressemblent des assassins? Vincent vit ensuite ceux de leurs victimes. Était-il possible que des hommes, sachant que le produit 9 plus 9, sachant ce que produit 9 plus 9 se livre à de telles violences? Ne te fie pas aux apparences, élimine-les. N'aie aucune pitié pour ces scélérats. Et surtout, ne leur parle pas. Quelques heures plus tard, Vincent revêtit sa tenue de prêtre chevalier, se munit de son arc, puis chevaucha en direction de la ville de Parmi, où la présence des tueurs avait été signalée. Le voyage fut long, fatigant. Il dut changer plusieurs fois de monture. Enfin, la cité et ses hauts donjons s'élevèrent devant lui. Parmi. À son arrivée, il fut emporté par le tourbillon de carnaval. Certes, il savait qu'aujourd'hui se fêtait un peu partout la découverte de la multiplication, mais il ne s'attendait pas à tant de liesses. 3 × 2 = 6 avait été trouvé depuis longtemps, mais les peuples continuaient à célébrer l'événement. La fête de la multiplication était d'ailleurs aussi appelée fête de l'amour, car c'est en faisant l'amour que les femmes parviennent aussi à se multiplier. Au milieu de la foule, Vincent distingua soudain un visage. C'était l'un des 4 prêtres chevaliers dont il avait vu le portrait. L'affaire se présentait bien. Sans même chercher, il en avait déjà trouvé un. Il brandit son arc et sans hésiter décocha une flèche qui frôla sa cible sans l'atteindre. L'homme déquerpit à toutes jambes. Vincent le poursuivit. Il tira une autre flèche qui se planta dans un masque de bois. Le tueur profita de ce répit pour se joindre à une procession de vierges qui gagnait une estrade afin de participer au concours de la reine de la multiplication. Dans l'incapacité de viser au milieu du groupe, Vincent n'eut plus qu'à attendre la fin de cette compétition stupide. Une à une, les vierges étaient présentées à de gracieux jeunes hommes. Celles qui ne choisissaient pas assez vite leur cavalier devaient se contenter de ceux qui n'avaient pas élu leur compagne, le rebut en quelque sorte. Dès la fin du spectacle, Vincent opéra un tir tendu et cette fois, il fit mouche. La flèche frappa l'homme en plein dos et lui traversa le thorax de part en part. Vincent avait réussi, il s'approcha de sa victime qui gisait sur le sol. Avant de mourir, l'homme lui fit signe de se pencher vers lui. Il plaqua sa bouche contre son oreille et difficilement articula « les nombres vont plus loin, les nombres vont plus loin que… » L'homme se crispa, lâcha prise et s'effondra dans un sursaut d'agonie. Vincent récupéra sa flèche et l'essuya. Des badauds commençaient à s'attrouper autour de lui, mais quand ils remarquèrent les insignes de prêtres chevaliers, ils s'écartèrent avec respect. Le corps fut évacué. Le carnaval reprit de plus belle. Vincent examinait la photo. 3 autres victimes, et ces deux l'enseigneraient combien font 9 plus 9. Justement, voici qu'au loin apparaissait un autre visage recherché. L'homme insouciant lançait gaiement des confettis sur des femmes déguisées en oiseaux. Vincent tira sa flèche et de nouveau rata sa cible. Comme la première fois, l'homme prit la fuite. Le prêtre chevalier partit à sa poursuite, mais l'homme l'entraîna dans une impasse. Confiant, Vincent s'avança pour achever sa besogne, mais avant qu'il pût armer son arc, il s'écroula, assommé par quelqu'un qui s'était tenu caché sous un porche. Lorsqu'il reprit ses sens, Vincent était ligoté et les trois prêtres survivants se tenaient face à lui. « Il a tué Octave, » déclara l'un. Cet individu est sans pitié. Mais fie-toi, conseilla le deuxième au troisième. C'est peut-être un spécialiste du maniement des armes et de la lutte au corps à corps. Le troisième fouillait les poches de sa robe de bure et en tirait des documents calligraphiés. Il se nomme Vincent. C'est un prêtre chevalier d'échelon 17. Eh bien, l'archevêque Baron doit vraiment tenir à notre trépas pour nous envoyer quelqu'un de ce calibre, remarquaient les deux autres. Vincent se cala sur un coude. « Je sais que vous êtes encore plus chevronné que moi, » dit-il calmement. Vous savez combien font 9 plus 9 ? Tous trois éclatèrent de rire. Mais qu'est-ce qui vous amuse tant ? Ils continuèrent à s'esclaffer. 9 plus 9, nous savons combien font 9 plus 9. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans ? L'un des assassins, un petit gros au visage poupin, se pencha vers lui en souriant. Nous en savons bien plus long que cela. Vous voulez dire que vous savez combien font 10 plus 9 ? Le plus grand se tordait les côtes. Bien sûr, et c'est pour ça que Egalem Sedev t'a chargé de nous tuer. Nous avons compris le sens des chiffres et des nombres. Nous en connaissons tant qu'il en est effrayé. Mais vous êtes des meurtriers, je sais que vous avez tué des moines. Ils se calmèrent soudain et dévisagèrent avec pitié. Ça, c'est la version officielle que l'archevêque Baron t'a donnée pour te convaincre de te lancer à nos trousses, expliqua le grand. En fait, nous n'avons trucidé personne. Notre crime est bien plus grave. Nous sommes allés trop loin dans la compréhension des choses. Ils se présentèrent. Le petit gros se nommait Sixtin, le grand maître Douzin, le frisé Troyen. Ils racontèrent à Vincent leur version de l'histoire. Un jour, Egalem Sedev leur avait demandé d'enquêter sur un animal. Une équipe d'archéologues avait en effet retrouvé, sur une pièce datant d'une période fort ancienne par rapport à la civilisation présente, le tracé d'un animal étrange ressemblant à une gazelle. Sixtin sortit de sa poche une boîte en bois allongée qu'il ouvrit. À l'intérieur, un écrin renfermait une plaque de fer sur laquelle était représenté un animal vu de profil. Sa tête portait des cornes, il avait quatre pattes et une queue. Nous avons longtemps étudié cet animal, nous l'avons cherché sur tout le globe. Egalem Sedev pensait qu'il s'agissait d'un monstre. Mais ce n'était pas cela. Il s'agissait d'un... Non, ne lui dis pas tout de suite, le retint Troyen. Mais si on ne lui explique pas, il continuera à nous pourchasser. L'autre se résigna. Ce n'était pas un dessin d'un monstre, mais d'un ombre qui dépasse tout ce qu'on connaissait jusque-là. Instinctivement, Vincent eut un mouvement de recul. Impossible. Regarde bien, prêtre chevalier, les cornes constituent deux chiffres, 6. Les pattes avant, deux chiffres, 7. Le ventre est composé de 2 zéros. Les pattes arrière de 2 9. Et la queue d'un 6. Le regard de Vincent fixait le dessin étrange. Il ne voyait qu'une gazelle, parce que ses yeux refusaient d'associer toutes ses formes autrement. Certes, si on isolait la tête de la chèvre, on pouvait y distinguer une lointaine attention, association avec le chiffre 6. De toute manière, il était inconcevable de coller tous ces chiffres aussi près les uns des autres. Seul le 1 peut être accolé à un autre afin de former une dizaine. La vision se brouillait, tandis que les autres continuaient à lui expliquer leur découverte archéologique. Vincent tenta une faible défense. Il suffisait d'isoler chaque partie pour voir la vérité. Ce n'était que des chiffres à coller, rien d'autre. Eh bien, nous avons là 2-6, 2-7, 2-0, 2-9 et 1-6. Rien de nouveau. Douzin glissa la pièce du doigt. Non, il faut comprendre ce dessin dans sa totalité. Cet animal est un ombre. Un ombre. Vincent reprit confiance. Ces gens étaient fous. Un nombre de plus de 2 chiffres, ça ne veut rien dire. Au-delà des dizaines, le grand maigre insista. Non pas des dizaines, mais plusieurs dizaines de dizaines de dizaines. Je comprends rien de ce que vous me dites. Tu sais compter jusqu'à combien ? 17. Bravo. Tu es loin d'être un imbécile. Tu es donc capable d'intégrer notre découverte. Jusqu'à présent, nous restreignons notre imagination à la progression des premiers chiffres. Lorsque l'homme a découvert le 15... Il s'est mis à penser jusqu'à 15. Puis l'homme a progressé, il a découvert le 16, puis le 17, puis le... Vous savez compter au-delà de 17 ? Mais bien sûr ! Dans ce cas, pourriez-vous me dire combien font 9 plus 9 ? Mais certainement. Les moines, hors la loi, s'amusaient de son ignorance, ils se moquaient de lui. Vincent avait la désagréable impression que ces moines avaient découvert quelque chose qu'il ignorait. Ils firent durer cet instant de doute, puis ils déclamèrent « 9 plus 9 égale 18 ». C'était donc cela, 18, 1, 8, 18, divisible par 9, par 6, par 3, par 2, par 18, par 1, mais quel beau chiffre ! Vincent était en pâmoison devant cette révélation, quand le petit gros poursuivit, mais ce n'est pas tout. Nous savons aussi combien font 9 plus 10, et même 10 plus 10, et même 10 plus 11. C'en était trop cette fois. Je ne vous crois pas, rien n'existe au-delà des dizaines. Et pourtant, si, il y a 20. 2 × 10 = 20. Vincent eut envie de se boucher les oreilles. C'était vraiment trop. Trop de savoir livré, trop vite. La tête lui tournait. Troyen s'approcha. Voici ce que nous avons découvert grâce à l'animal qui ressemble à une chèvre ou une gazelle et qui pourtant n'est qu'un ombre. Un immense continent de connaissances s'ouvre devant nous. Nous n'y avons parcouru qu'un petit chemin. 667 709 196 a été dessiné par des hommes pleins de savoir, peut-être des hommes du futur revenus visiter leur passé. Ils ont oublié au passage cet objet et nous ont ainsi révélé que l'homme du futur s'est compté jusqu'à 667 709 196. Vincent poussa un cri de douleur. Il avait l'impression qu'une grande porte s'ouvrait dans son cerveau, libérant les 3/4 des possibilités qui se tenaient jusque-là compressées dans un recoin de son cortex. Il pleurait. Les autres détachèrent ses liens et l'aidèrent à se relever. À présent, il pouvait se tenir debout. Dans sa tête aussi bien, et dans sa tête aussi, il était prêt à affronter l'étendue infinie des chiffres qui dépassaient les dizaines. 667 700 996. Évidemment, ce n'est pas une chèvre, mais c'est un nombre. Vincent s'approcha de la fenêtre. Il était saoul de savoir. Il venait de recevoir d'un coup, en pleine cervelle, une tonne de cet enseignement qu'on lui avait distillé jusque-là au compte-gouttes. Il contempla sa robe, marquée des insignes du monastère du chiffre. Puis il regarda par-delà la vitre un horizon sans fin, un monde rempli de nombres sans limite. Il vacilla sous la sensation de vertige. Le plafond de son esprit venait de s'élever. Ainsi, toutes ces connaissances que les scientifiques, bardés de diplômes impressionnants et de titres intimidants, lui avaient accordées comme autant de bijoux précieux, n'étaient encore que des prisons. Il avait remercié humblement chaque fois qu'il lui avait allongé un tout petit peu la laisse, mais ce n'était qu'une laisse. On peut vivre sans laisse. On n'a pas besoin d'être un scientifique patenté pour savoir. Il suffit d'être libre. Il n'existe qu'une science, se dit-il, la science de la liberté de penser par soi-même, sans moule préconçu, sans chapelle, sans maître, sans aucun a priori. 17 ne désignait pas un niveau de noblesse dans une stricte hiérarchie. 17 ne constituait pas une prouesse d'intellectuel. 17 était une prison. Ce qu'il croyait posséder de richesse n'était qu'une minable information sur des prémices de l'étendue infinie des chiffres et des nombres. Il croyait connaître un continent, il n'en avait même pas foulé que la rive. Vincent fixa l'horizon, ôta sa robe de bure, il ne souhaitait plus être moine soldat. Désormais, il était un esprit libre, libre de penser le monde au-delà de toute limite chiffrée ou numérique. Sa pensée pouvait sortir de son crâne et jouer avec l'infinité des nombres. Les 3 autres le serrèrent dans leurs bras. « Nous sommes désormais de nouveau 4 à savoir, frère Vincent. Et dès que les moines du chiffre apprendront que tu as failli, ils te considéreront comme un nouvel hérétique et nous dépêcherons du nouveau tueur. » Vincent ne revit plus jamais l'archevêque Baron, ni sa famille, ni ses enfants. Il rencontra une princesse, Catherine, à qui il révéla le secret des nombres sans fin. Et il eut des enfants avec elle. À tous, il enseigna que la pensée, comme les chiffres, n'admet aucune prison. C'est ainsi que Vincent devint un chef hérétique. La ville de Parmi se souleva contre l'archevêché et établit un gouvernement autonome avec ses propres valeurs. Ils adoptèrent pour symbole la tête de gazelle aux longues cornes. Au sein de cette minuscule nation furent enseignés les nombres au-delà de 20. Conséquence, un petit état fut rapidement mis au ban des nations. Une énorme armée fut montée pour le détruire, mais les citoyens s'organisèrent et grâce à leur courage et à leur détermination, ils parvinrent à repousser les troupes ennemies. L'archevêché décida de changer de tactique. À défaut de prendre la ville, il suffisait d'en réduire l'influence. D'abord, lui dénier toute légitimité à exister et empiéter peu à peu sur son territoire, puis créer sur son flanc une autre nation qui, elle, clamerait haut et fort qu'il n'existait rien au-dessus du chiffre 10. C'était la réponse du berger à la bergère. Ce peuple se nomma Disqualifieur. Ils interdirent à quiconque d'évoquer des chiffres supérieurs à 10. Le 10, c'est le plus grand, et rien n'est au-delà, telle fut leur devise. Comme la pensée parmi l'hyène se répandait lentement, tant elle était difficile à admettre par des esprits en friche, les disqualifieurs reçurent le soutien de tous les organismes officiels, de tous ceux qui avaient intérêt à maintenir la population dans l'ignorance. Un peu partout, on assista à l'assassinat de ceux qui connaissaient le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Vincent se rendit compte que la poussée vers le haut qu'il avait voulu initier avait provoqué par contre-coup un déferlement de fanatisme en faveur d'un retour à l'ignorance. Les disqualifieurs ne dissimulaient plus leur dessein. Vague de violence à l'appui, ils contraindraient tous ceux qui pensaient au-delà de 10 à se taire ou à se tapir en quelque recoin. L'État parmilien tint bon malgré les injustices et les massacres dont ils étaient victimes. Les citoyens continuaient à étudier les chiffres et découvraient des merveilles comme la magie de Pi ou le nombre d'or. Ils comprirent les possibilités du nombre irrationnel et touchèrent à l'infini en divisant un jour un nombre par zéro. Simultanément, la terreur des disqualifieurs s'amplifia. De plus en plus de citoyens s'inclinèrent devant elle. La peur était un moteur bien plus puissant que la curiosité, la lâcheté un sentiment facile à partager. Et puis, les disqualifieurs étaient passés maîtres en désinformation. Non seulement ils assassinaient, mais ils accusaient ensuite les parmiliens de leurs propres méfaits. Et personne n'osait les contredire. Même au sein de l'archevêché, plus personne n'évoquait l'existence du nombre au-delà de 10. « Tous égaux, tous dans l'ombre du 10 » étaient inscrits sur les murs de la ville, et aussi « Mort aux hérétiques parmiliens ». Parmilie se retrouva isolé du chiffre des nations, comme frappé d'une maladie contagieuse, la maladie du savoir. Nul ne soutenait la cité, mais elle existait, et avec elle l'étincelle de la connaissance des nombres se perpétuait, même limitée à une population de plus en plus réduite. Ce ne fut que bien plus tard, alors qu'il était déjà vieux et fort chenu, que Vincent fut assassiné en pleine rue par un disqualifieur fanatique. En tombant, il eut une dernière pensée. Dans le combat humain pour l'élévation de l'esprit, il ne suffit pas de monter le plafond, il faut aussi empêcher le plancher de s'effondrer. Je trouve ça magnifique. Je vous invite à acheter le livre qui s'appelle « L'arbre des possibles » de Bernard Werber. C'est plein de contes, plein d'histoires comme ça. C'est un véritable régal, à méditer, à souligner, à réfléchir, et on peut en parler entre nous. C'est magnifique. Vous trouvez? C'est vraiment splendide. Bien, nous allons revenir à la parole de Dieu avec la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui ne sont pas obligés de se plier à Rome ni à ses filles. Romains chapitre 8, verset 6, on se met debout. Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. On peut ressortir d'ici transformé. Vous êtes rentré d'une certaine manière, vous pouvez sortir d'ici transformé, comme cet homme, par la connaissance de la vérité. Cela vient d'un simple fait établi par Dieu lui-même. En écoutant la prédication, tu reçois autant que tu acceptes. La prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la vie éternelle pour ceux qui croient, qui acceptent. Tu pourrais accepter la paix avec toi-même, la paix avec tous, tu pourrais. Simplement déjà en commençant par offrir la paix à ton cœur, parce que ça commence par là. Si tu as des problèmes avec des frères et sœurs, c'est des problèmes avec les gens du dehors, ça vient d'abord premièrement que ton cœur n'est pas en paix. Parce que, par exemple, là, les parmiliens, ils avaient des problèmes avec les gens de l'extérieur, mais ils étaient en paix. On peut être en paix même si tout le monde n'est pas en paix avec nous, mais nous-mêmes être en paix. Mais une fois qu'on est en paix, on peut offrir la paix aux autres, ils la veulent ou ils ne la veulent pas. La paix du cœur vient quand tu acceptes d'être délivré de toutes tes illusions. Les gens marchent dans la chair, nous dit la Bible, dans Galates 5, 17. En d'autres termes, ils marchent dans leurs illusions, dans leurs fausses croyances. Marcher dans la chair, c'est marcher par rapport à ce qu'on a acquis depuis notre naissance. Et cela inclut la religion. Beaucoup de gens pensent, voilà, c'est des frères, c'est des sœurs. Non, ce sont des esprits religieux. Et un jour, ça se manifeste. Marcher selon la chair. Ce sont des gens qui ont remplacé, qui ont créé des remplaçants de Dieu, des substituts de Dieu, des faux dieux. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, en réalité, c'est rien, c'est du néant. Et le néant attire le néant. Un jour, le prophète Samuel a dit « N'ayez point de crainte ». Il était réaliste. Il disait « Vous avez fait beaucoup de péchés, beaucoup de mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Servez l'Éternel de tout votre cœur. » Attends. Ils ont fait beaucoup de mal, donc ils sont détournés de l'Éternel. Pourquoi il leur dit « Vous avez fait beaucoup de mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. » Il leur dit ça parce que le peuple était venu devant Samuel, c'est-à-dire que quand on vient devant la parole de Dieu, quand on vient devant un serviteur de Dieu, c'est qu'on ne se détourne pas de l'Éternel. C'est qu'on se rapproche de l'Éternel. Ne vous détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant. Voilà ce qu'il leur dit. Qui ne vous apporteront ni profit, ni délivrance. Rien. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses de néant, des choses de rien. Si vous vous détournez de Dieu, vous n'allez trouver que du rien. Samuel, vous voyez le peuple devant lui, ils sont venus devant lui, c'est parce qu'ils savaient que Dieu parlait par lui, ils sont venus volontairement, ils sont en présence de Dieu quand ils sont volontairement en présence du serviteur de Dieu. Oh, vous allez me dire, on peut être en présence du serviteur de Dieu, on peut être dans la communauté, on peut être sans être dans la présence de Dieu, ça c'est vrai aussi, parce que c'est à l'intérieur de vous, et ça on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir où vous en êtes. Vous seul savez où vous en êtes. Mais là, c'était des gens qui avaient le désir d'être délivrés. Alors Samuel leur dit, oui, vous avez péché, mais maintenant ne vous détournez pas de Dieu, vous êtes là, ne vous détournez plus maintenant. Ok, vous avez péché, mais ne vous détournez plus. Maintenant, vous êtes en présence de Dieu, alors ne vous détournez plus de sa présence. Ça commence comment, ne plus se détourner de sa présence ? Ça commence par ne plus craindre. Il leur dit, ne vous détournez plus de sa présence, ne craignez pas. Seulement, sachez-le, si vous vous détournez, vous ne trouverez aucun profit, aucune délivrance. Vous ne trouverez rien. Ce n'est pas une menace. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Et il ajoute, cela ne vient pas du fait que Dieu vous aura rejeté si vous trouvez que du néant, que du rien, et pas de délivrance et aucun profit. Ce n'est pas parce que Dieu vous aura rejeté. Non, lui, il n'est pas du genre à abandonner. Ce n'est pas un lâche. Quand il a résolu une chose, il s'y tient. Et il a résolu en son cœur de faire de vous son peuple et il ne vous abandonnera jamais. Mais si vous voulez aller après des choses de néant, vous n'en aurez aucun profit, aucune délivrance et vous vivrez dans des trucs de néant, du néant. Et puis voilà, puis vous direz, ah ben Dieu m'aime pas. Parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Parce que vous ne vous tenez pas en présence de Dieu. Vous avez peut-être une religion ou je ne sais pas quoi, mais vous n'aurez aucun profit ni aucune délivrance si vous vous détournez de lui. Vous trouverez tout ça dans 1 Samuel 12, 20, 25. Si vous vous détournez de lui, ça signifie si vous vous enfermez dans une prison. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Hors de Jésus-Christ, Nous devenons esclaves, mais personne ne peut nous réduire en esclavage. Même Satan ne peut pas nous réduire en esclavage. C'est nous-mêmes. Un esclave volontaire, c'est une personne qui a perdu le sens de sa propre valeur, qui se déprécie, qui dit « je vaux rien ». Et quand il dit « je vaux rien », il insulte Dieu. Il s'éloigne de Dieu. Comment voulez-vous ? Écoutez voir. Je vaux rien, je suis souillé, je suis impur, je suis un raté. Mais vous insultez Dieu, c'est Dieu qui vous a créé. Être esclave volontaire, c'est être quelqu'un qui se déprécie et qui ainsi insulte Dieu, se détourne de lui. C'est vivre dans la servitude que de vivre avec un maître, une passion qui triomphe de vous. Voilà pourquoi Dieu interdit l'idolâtrie. Je vous parlais de l'idolâtrie l'autre jour. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas à ses enfants fidèles que Dieu interdit l'idolâtrie. Qui c'est qui pourrait interdire l'idolâtrie d'une façon malhonnête ? Ben, les Nicolaïtes. Mais Dieu, lui, quand il interdit l'idolâtrie, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de l'amour. Il ne nous l'interdit pas à nous. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que nous, ça ne nous frôle même pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous viendra même pas à l'idée. Il sait très bien que ses enfants fidèles ne veulent pas remplacer Dieu par une chose ou par une personne ou par une philosophie qui a moins de valeur que Dieu. Dieu interdit l'idolâtrie aux méchants. Par amour pour eux. Parce qu'il sait que ça leur sera nuisible. Et il les aime. Dieu aime le monde. Alors il leur interdit l'idolâtrie parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Parce que ce sont des gens au cou raide, stupides, insensés, qui n'écoutent rien. Alors il dit d'une fois ferme, c'est interdit. Comme un sale gamin à qui vous dites quelque chose et il vous argumentez, vous l'expliquez, il ne comprend rien, ben vous poussez une bonne gueulante. Non, c'est interdit. Comme à Potter quand il monte sur notre lit. Non, interdit. Mais il monte quand même. Abruti. La loi, elle est faite par amour pour les méchants. C'est ce que Paul dit à Timothée. Écoutez bien ce qu'il dit, Paul. La loi n'est pas faite pour les justes. Ah, youpi, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, c'est pas... non on ne veut pas faire tout ce qu'on veut. Ce que notre chair veut. Notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La loi n'est pas faite pour les justes, mais elle est faite pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies, pour les pécheurs, pour les irreligieux, pour les profanes, pour les parricides, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les infâmes, pour les voleurs d'hommes, c'est-à-dire ceux qui kidnappent, hein, suivez mon regard en ce moment, pour les menteurs, pour les parjures, et pour, elle était faite pour tous ceux qui sont contraires à la sainte doctrine. Dieu leur a donné une loi afin qu'ils puissent vivre un minimum de paix sociale. C'est par amour. Parce que qui dit loi dit sanction. Quand on désobéit à la loi, il y a une punition. Alors quand le peuple s'approchait du prophète, quand vous vous approchez de Dieu, vous recevez de lui sa paix. Parce que la paix, elle est dans sa personne, dans sa présence. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de la paix. Dans le royaume où tu es avec Dieu, tout ce qui est là est grandement apprécié et aimé par Dieu. Il n'y a pas de conflit. La loi crée des conflits. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il est, et sa paix émane de lui. Et tu te trouves baigné là-dedans. Mais si tu écoutes d'autres dieux, si tu crois en d'autres puissances qu'en celles de Dieu, si tu crois, par exemple, à la puissance du diable sur ta vie, à la puissance de certaines personnes, voilà, c'est à cause de lui que je prends cette décision, parce que ça devient insupportable. Donc tu lui donnes une puissance, ce n'est pas toi qui es puissant, c'est l'autre. Donc tu t'es fait un faux dieu. Alors tu as un problème. Cesse d'accorder de la puissance à des soi-disant ennemis, à des soi-disant personnes influentes, des personnes qui te dérangent ou qui te ceci ou qui te cela. Arrête de leur donner de la puissance. Arrête de te laisser impressionner par ça. En faisant ça, en fait, tu les honores. Or, dans le royaume de Dieu, l'homme, l'honneur, ne revient qu'à Dieu seul. Si tu es dans le royaume de Dieu, à qui revient l'honneur ? À Dieu. Ça ne revient pas aux autres et ça ne te revient pas à toi. Rends-lui honneur à lui et sa paix sera à toi. C'est ton héritage. Maintenant, pensez-y. Le diable veut les honneurs qui sont dus à Dieu. Est-ce qu'il vit dans la paix ? Les gens qui veulent recevoir les honneurs dus à Dieu, peuvent-ils vivre dans la paix ? Non. Ta joie, elle vient d'où ? De donner les honneurs et non pas de les recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et hier soir, quand on a parlé, je disais, mon message, il est écrit. Il ne peut rien. Hein. Ce que je dis, c'est étonnant, n'est-ce pas ? Ta joie, c'est de donner, de t'abandonner, de servir, sans rien attendre en retour. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ton héritage n'est pas la louange des autres. Ton héritage, c'est la paix. Ce qui revient à Dieu, c'est la louange, la gratitude, l'honneur, la gloire. Et si tu es triste, c'est que tu recherches à recevoir ce qui revient à Dieu. Si tu es triste, c'est que tu recherches à recevoir plus que à donner. Je suis désolé. Tu me dis, oh, tout ce que je donne. Bah, oui, mais tu donnes pour quoi ? Pour recevoir. Tu donnes pour recevoir. Pour dire, ah, la sœur, elle est bien. Ah, le frère, il est bien. Il est serviable. Ah, il est gentil. Ah, tout ce qu'il fait. Ah, mais sans lui, on ne pourrait pas se débrouiller. Mais c'est merveilleux. Ah, merci, merci. Hier soir, on a mangé une boîte de chocolat. Puis après, j'ai dit, c'est qui a offert ça ? On m'a dit, c'est Christian Robin. J'ai dit, ah ben, je ne l'ai pas honoré, hein. Parce qu'il faut que chaque fois qu'il y a une boîte de chocolat sur la table, il faut que je dise, qui c'est qui va faire la boîte de chocolat pour vous honorer ? C'est ça que tu cherchais, Christian, être honoré, loué. Ah, louange à Christian Robin qui a acheté des chocolats. Puis après, on va passer l'échelle plus haut. Merci, louange à Christian Robin qui a acheté des chocolats meilleurs que ceux que le frère avait achetés dimanche passé. Ben oui, il faut toujours un petit peu plus, hein. On en veut toujours plus. Non, mais c'est quoi ce cirque ? Ta joie, c'est donner et c'est tout. Et puis, tu en bouffes aussi un peu du chocolat. Hein, Christian ? Merci pour les chocolats, ils étaient délicieux. Dites-moi aussi merci pour le whisky que j'ai servi hier soir. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous. Hein. Vous voyez, c'est bête. Quand tu cherches à recevoir, quand tu désires recevoir, eh ben, tu te mets à la place de Dieu. Et tu deviens un usurpateur. Une idole pour toi-même, cherchant à te faire adorer aussi par les autres. Et ça, c'est l'origine du mal. Le diable, il voulait être à la place de Dieu. Vous lirez Ésaïe 14, 13. Il voulait se mettre à la place de Dieu. C'est l'histoire de Is No Good, hein, qui veut venir calife à la place du calife. Eh bien, c'est la base de tout. C'est contre nature que de se mettre à la place de Dieu. Parce qu'on n'est pas Dieu. Dieu habite en nous, oui. Alors, au travers de nous, il fait les choses. Et que son nom soit glorifié. Parce qu'il nous a donné la santé pour le faire. Parce qu'il nous a donné la force pour le faire. Parce qu'il nous a donné l'intelligence pour le faire. Tout ce que tu as, c'est parce que Dieu te l'a donné. Tu l'as reçu. Loue le Seigneur. Amen. Et puis, que ça ne devienne pas une phrase toute faite comme « Ah non, non, c'est le Seigneur. Ah non, c'est grâce à Dieu. » En pensant « Ouais, ouais, n'empêche que... » C'est quand même mon porte-monnaie qui a payé le chocolat, hein. C'est des petits exemples que je vous donne pour vous montrer que vous ne serez jamais satisfait dans la vie si vous cherchez la gratitude des autres. Vous ne serez jamais satisfait. Vous ne pouvez être satisfait que dans la présence de Dieu qui vous donne sa paix. La paix. Pourquoi elle vous donne sa paix ? Parce qu'il sait très bien que dans le monde, vous ne l'aurez pas. Même dans la communauté, vous ne l'aurez pas, la paix. Comment voulez-vous ? Ce n'est pas possible. On est tous charnels. vous allez avoir la paix avec 4, 5. Et moi, des fois, j'ai la paix avec tout le monde, sauf avec 1. Eh bien, ça me fout en l'air la journée. Pourtant, je devrais dire, mais j'en ai 39 qui m'adorent, c'est extraordinaire. Puis j'en ai un qui m'aime pas ou qui fait des problèmes, on s'en fout. Ben, je peux pas. Ça me gâche tout. C'est la mouche qui fait tourner le parfum. C'est pas comme ça pour vous ? C'est comme ça. C'est impossible, la paix. En communauté, dans le monde du travail, partout, c'est impossible. La paix, tu la trouves que quand tu es en présence de Dieu. Et tu es en présence de Dieu quand ? Le matin, entre 5h30 et 6h ? Non. Tu es en présence de Dieu quand tu le veux. Tu peux l'être tout le temps. D'ailleurs, tu devrais l'être tout le temps. Ce serait beaucoup mieux pour toi et pour nous. L'honneur est dû à Dieu. Maintenant, la peur n'est pas due au faux Dieu, ni aux fausses puissances. Avoir peur d'un démon, avoir peur d'un homme, avoir peur d'une situation, avoir peur de l'avenir, tout ça, c'est des peurs de rien. Que peut me faire un homme ? C'est ce que la Bible dit. Un seul est à craindre, Dieu. C'est ce que la Bible dit aussi. Alors, dans les psaumes, il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Formidable. Et puis là, Gérard m'a offert la version Tob. Et puis, je suis en train de redécouvrir le Siracide que j'enseigne le matin à la réunion de prière à ceux qui veulent bien daigner se lever pour venir. Et on trouve dans Siracide 1:12, la crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne la joie et la gaieté et la longue vie, et dans une autre traduction, la vie éternelle. Pourquoi ? Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. La crainte de Dieu, ce n'est pas vivre dans la trouille. Avoir la crainte de Dieu, c'est vivre dans la joie, dans la gaieté, hein ? Ça réjouit le cœur. C'est avoir la paix. Mais comment on peut craindre et puis avoir la joie ? C'est comme la justice. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Et la crainte que Dieu demande, ce n'est pas la crainte que le diable demande. Ce n'est pas la crainte que le diable exige. N'ayez crainte que de Dieu. N'ayez crainte que de l'amour. C'est ça que ça veut dire. Dieu est amour. N'ayez crainte que de l'amour. Ça donne la paix. Pourquoi n'ayez crainte que de l'amour ? Parce que l'amour est dans la parfaite incapacité de te nuire. Maintenant, ceux qui, finalement, seront jetés dans les temps de feu, dans la seconde mort, sont ceux qui refusent de craindre de blesser l'amour. Ce sont ceux qui blessent l'amour qui seront jetés dans les temps de feu. Ce sont ceux qui méprisent l'amour. Ce sont ceux qui profitent de l'amour. Ceux-là récolteront ce qu'ils ont semé. On récolte ce qu'on sème, on récolte ce qu'on aime. Ils aiment ce qui est faux. Ils jouent avec la peur qu'ils insufflent dans le cœur des non-initiés, de ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Alors évidemment, ils insufflent des peurs et puis alors ils s'en nourrissent. Aimer ce qui est faux, ce n'est pas aimer. Aimer ce qui est faux, c'est haïr ce qui est vrai. Eh bien, puisqu'ils haïssent ce qui est vrai, il n'y a pas de place pour eux dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, par amour, a créé l'enfer. Afin qu'ils ne soient pas obligés de supporter ce qui est vrai pour l'éternité, ce qui est digne de louange, adorable, merveilleux pour l'éternité. Ils ont aimé le mensonge, ils ont aimé la peur, ils ont aimé toutes ces choses, ils ont aimé mentir, ils ont aimé tromper, ils ont aimé profiter de l'amour des autres. Eh bien, allez là où ça vous attire. C'est par amour que Dieu fait ça. Souvenez-vous que la vérité seule vous rend libre. Elle te rend libre, même si tu ne la connais pas entièrement. Même si tu sais compter que jusqu'à 20. En sachant qu'il y a d'autres choses encore que tu peux trouver. Elle te rend libre. D'ailleurs, personne ne peut connaître entièrement la vérité. Parce qu'elle est infinie, comme les chiffres. C'est infini. Ça nous rend humbles. Ça nous rend adorateurs de Dieu. Et ça nous montre qu'on a tout intérêt à être fidèles puisqu'il est si grand. Qui est plus grand? À qui allons-nous nous soumettre qui est suffisamment grand et fort pour prendre soin de nous? Alors soyez humbles et fidèles, reconnaissant à Dieu d'avoir accédé à la liberté. Maintenant, comme Paul le disait, parce qu'il y en avait qui avaient bien compris, hein, et qui avaient perverti la chose, alors il leur dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il dit, le remède de ça, ce qui nous assure qu'on ne profite pas de la liberté pour vivre selon la chair, voilà la solution, c'est « Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Par l'amour, ne vous rendez pas serviteurs des uns des autres pour autre chose que pour l'amour. On peut se rendre serviteurs les uns des autres pour autre chose. Pour de la reconnaissance, pour de la louange, pour de les honneurs, pour être flatté, pour avoir l'air intéressant. On peut tout imaginer. Alors il précise bien, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Si tu aimes être libre, laisse les autres libres. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus pour ces choses. Merci Seigneur de bien vouloir continuer à nous guider dans cette parole. Je te remercie mon Dieu parce que tu veilleras sur mes frères et sœurs alors que je serai là-bas en Afrique. Je te remercie mon Dieu parce que tu donneras à Alain les bons messages pour pouvoir nourrir ton peuple. Je sais que tu es tout puissant et que tu ouvriras les oreilles de chacun et de chacune pour qu'ils puissent toujours trouver cette bonne nourriture. Merci mon Dieu. De donner à Alain, malgré tous ses allées et venues, son travail, le temps de pouvoir méditer et de trouver ton conseil. Merci Seigneur Jésus, parce que j'ai complètement confiance en l'esprit que tu as mis en lui et dans le ministère que tu lui as confié. Merci Seigneur de soutenir chacun et chacune et aussi de tous ceux qui écouteront les messages internet. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.
Chers frères et sœurs, ce n'est pas qu'un seul chant qu'on va vous faire, ni une douzaine non plus, d'ailleurs, rassurez-vous. C'est simplement pour vous faire voir un petit peu ce que, à l'étude biblique, un tout petit résumé du but que nous voulons atteindre, enfin que je voudrais atteindre avec l'aide de Dieu, bien sûr, dans l'esprit des petits-enfants que j'ai avec moi à l'étude. Il faut toujours une motivation, ce n'est pas toujours facile. Alors chaque année, je change de thème. La première année, vous n'en êtes peut-être pas aperçu, mais mon thème, c'était de leur donner une parole de Dieu oralement, une petite histoire dans la bonne semence, le voyage du pèlerin ensuite, et un dessin à la fin qui illustrait ce que nous avions vu dans la petite histoire. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné, ils ont beaucoup aimé, surtout les dessins. Mais cette année, ils ont grandi d'un an. Donc j'ai pensé qu'on allait changer peut-être un petit peu les thèmes et la façon d'enseigner la parole de Dieu. J'ai demandé son inspiration, évidemment, parce que j'étais un peu à court. Je me disais, qu'est-ce que je vais leur faire faire? Eh bien, j'ai trouvé que maintenant, on allait quand même étudier un petit peu les choses en profondeur, c'est-à-dire savoir chercher des versets dans la Bible, les chapitres, tout ce que ça voulait dire. En plus, j'ai dit, ils chantent avec nous à la chapelle, mais je suis sûre qu'en partie, ils ne connaissent pas le sens des mots des chants. Donc, on a approfondi certains chants en expliquant les mots qui ne leur paraissaient pas bien clairs. Et également, j'avais à cœur, moi, un chapitre du Nouveau Testament dont vous verrez un extrait. Vous entendrez, parce que tout est oral, évidemment. Cette année, tout est oral. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de dessin. Mais ils ont mis tout leur cœur à préparer quelque chose de ce type. On l'avait préparé pour Noël, mais vu que Samuel n'était pas là, on ne pouvait pas faire ça sans lui. Donc on a remis aujourd'hui. Michel a été au courant que je désirais faire cela. Et la première chose qu'ils vont vous faire, c'est dédier à Michel. il va reconnaître que dans un film, ça l'avait beaucoup touché. Et il dit, ah, je voudrais bien que ça soit comme ça chez nous. Eh bien, tu vas découvrir. Alors, les enfants, vous savez par quoi vous commencez ?
L'amour est patient.
L'amour rend service.
L'amour n'est pas jaloux.
L'amour ne se vante pas.
L'amour ne se gonfle pas d'orgueil.
L'amour ne fait rien de honteux.
L'amour excuse tout.
L'amour ne se met pas en colère.
L'amour ne se souvient pas du mal.
L'amour ne se réjouit pas de l'injustice.
L'amour se réjouit de la vérité.
L'amour ne cherche pas son intérêt.
L'amour croit tout.
L'amour espère tout.
L'amour supporte tout.
L'amour ne disparaît jamais.
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 L'amour ne disparaît jamais. On vous aime.
Thank you.
Si ton pied trébuche quand tu jettes la graine, Jésus sera là, il te relèvera. Un grand cri dans la nuit, un lion devant moi, c'est à Dieu que je crie. Donnera une moisson de joie. Si ton pied trébuche quand tu jettes la graine, Jésus sera là et te relèvera.
Jésus, nous sommes dans l'attente, prêts à partir avec toi.